Dans très peu de temps, vous allez entrer dans un monde de passionnés. Certains pourraient les appeler les nouveaux druides. Ils transforment l'eau, le malt et la levure en un subtil breuvage que l'on nomme communément bière. L'abus d'alcool étant un danger pour la santé, cette émission n'est pas là pour vous inciter à en abuser, mais pour mettre en avant les acteurs locaux qui inventent avec amour de nouvelles recettes et travaillent sans relâche pour vous partager leur passion gustative à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un département.
C'est tout un monde, c'est un vendredi sur deux à 17h et un dimanche sur deux à 11h sur Radio Bartas 107FM. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Bonjour et bienvenue dans la microbrasserie Auberge Hortin. Donc là, on est dans le lieu de la microbrasserie et je vais vous parler de comment Garance, parce que c'est Garance qui est la brasseuse de bière.
Mais c'est Jérémy qui fait les visites parce que je suis en cuisine.
Comment, du coup, elle vient brasser la bière dans cet espace-là. Donc on est dans une salle de 50 mètres carrés, dans lequel il y a deux zones séparées. Donc d'un côté, le côté sec. Donc là, on y trouvera tout ce qui est le malt. Donc c'est céréales de blé, d'orge, malté. Les fûts, les bouteilles. Les céréales proviennent de la malterie du Vieux Silo, qui est dans le Tarn. Ça a 1h30 de route. C'est une petite malterie, voilà, qui fonctionne en bio et en local, et ça nous correspond très bien. Et d'un autre côté de la salle, on a bien une cuve d'empâtage, une cuve de houblonnage, une autre de resucrage, du matériel pour embouteiller et capsuler, mais aussi 4 fermenteurs. Lorsque Garance commence à faire la bière, on commence par le réchauffage de l'eau. Donc on a à peu près 500 litres d'eau qu'on doit chauffer sur les températures qui vont nous permettre de respecter les paliers de l'empâtage. Donc en dessous, c'est un petit réchaud à paella qui réchauffe tout ça. On est sur une microbrasserie artisanale, hein. On fait avec des petits moyens. Donc une fois qu'on a commencé à mettre l'eau en chauffe, Garance réalise ses recettes avec ses quantités de malt, de blé, d'orge. Donc on a une petite graine claire d'orge dans lequel il y a eu un premier procédé de germination qui est invisible à l'œil nu, hein, sur ce grain. C'est donc ça qu'on va appeler du malt. Donc suivant la recette que Garance veut faire, si c'est une blanche par exemple, elle va utiliser plus en quantité de malt de blé et ensuite elle va jouer plus avec l'orge ou d'autres malt comme le malt de seigle. Si vous venez faire la petite visite, vous verrez qu'elle est bien différente, avec un goût aussi différent. Et enfin, si elle veut aller vers des ambrés ou des stouts, elle va commencer à utiliser des malts type caramel et avec de la torréfaction, donc du malt grillé, plus foncé. Donc on a, lorsqu'on croque dedans, un goût plus amer, proche du café. Une fois qu'on a le malt qui a été bien concassé comme il faut, sans être fariné, mais juste écrasé, il va passer dans une cuve d'empâtage. Donc c'est cette cuve d'environ 500 litres, avec un filtre au fond. Et entre le filtre et le fond de la cuve, on a un petit espace d'environ 4 à 5 cm qui va permettre de faire passer le liquide. C'est un espace un peu tampon, dans lequel le liquide pourra s'échapper ensuite sur une vanne et partir dans les autres cuves sans emmener le grain. Donc dans cette cuve, on va récupérer un maximum de sucre. Donc l'eau qui a été chauffée avec dans notre autre cuve avec ce petit réchaud à paella, on va monter cette eau aux alentours de 72 degrés et elle va être amenée à arroser et imbiber le grain concassé dans la cuve d'empâtage.
Du coup, par rapport au choix du matériel qu'il y a, on est vraiment sur une technique de brassage sur du monopalier, donc on fait une infusion en fait. Donc la température de démarrage, je vais chercher à ce qu'elle soit à peu près autour de 66-67 degrés, et du coup laisser le grain infusé dans cette eau pour sortir le maximum de sucre. Il y a d'autres méthodes qui existent, mais là, c'est plutôt celle-là qui est employée.
On va récupérer donc ce mousse, ce jus de céréales, et on va l'emmener dans la cuve de houblonnage. Donc le houblonnage, c'est dans cette cuve-là que va se passer une étape pour pouvoir préparer ce jus de céréales pour pouvoir accueillir les levures. La bière qui est une fermentation de malt, de céréales, avec ajout de houblon. Donc là, on va préparer ce bain en le stérilisant. On va le monter à ébullition. On va tuer toutes les bactéries présentes dans, cette cuve-là. Et une fois qu'on aura bien tué les bactéries, on va laisser redescendre un peu la température aux alentours de 80 degrés.
L'empattage, c'est tu laisses bien une heure et demie infuser et après tu repasses en fait de l'eau chaude dessus pour vraiment venir extraire le maximum de liquide pour remplir cette cuve de houblonnage. Cuve de houblonnage effectivement dans laquelle le moût sera amené à ébullition. Et en fait après, selon les plantes qui seront ramenées dedans et ce qu'on a envie de faire comme recette, on va les ajouter. Enfin, ça peut être sur toute la durée d'ébullition pendant une heure, ça peut être à la toute fin de l'ébullition, ça peut être juste quand la température commence de redescendre un petit peu, parce que comme le thé, il y aura des goûts qui vont être différents si on infuse à thé à 100 degrés, à 90 ou à 80. Au niveau du houblon, des plantes aromatiques, ça va jouer aussi. Par contre, on va essayer de ne pas faire d'ajouts qui sont plus bas que ça pour éviter le risque de contaminer avec de nouveaux entrants le moût qui vient d'être stérilisé.
Du coup, une fois donc ce bain, une fois qu'il aura été préparé à accueillir les levures, que ce soit par le fait que les bactéries auront été tuées, qu'il y aurait eu des infusions possibles de plantes, mais aussi le houblon qui aura infusé là-dedans pour pouvoir aussi aider à stériliser le bain, on vient amener à refroidir du coup ce mou, à l'emmener vers les fermenteurs, là où il y aura le grand travail des levures. Donc le fermenteur, une cuve de 620 litres en cylindre, dans lequel au-dessus on voit un barboteur qui sert à permettre au CO2 qui sera dégagé par les levures de se dégager, mais un liquide va bloquer l'air ambiant l'air ambiant ne pourra pas rentrer dans la cuve. Très important parce que ça évitera le contact extérieur.
C'est vrai qu'au départ, j'ai dimensionné sur 4 fermenteurs en prévoyant une évolution possible si j'avais plus de besoins en fait en termes de production. Pour pouvoir condenser, normalement, l'idée c'était d'être sur de la production plutôt hivernale, donc de pouvoir condenser la production à ce moment-là, ce qui permet aussi, en termes énergétiques, c'est à peu près la même consommation pour le groupe froid qui tourne pour un fermenteur ou 4, donc ça permet quand même d'avoir une réduction d'impact énergétique en groupant. Il y a moins de besoin l'hiver de refroidir que si tu brasses en plein été. Donc c'est vrai que c'était un choix, nous, sur notre lieu, de fonctionner comme ça. Essayer vraiment au maximum de maîtriser les matières premières, en fait. Enfin, voilà, en choisissant des choses qui sont proches, en maîtrisant au niveau du stock, en essayant aussi de réutiliser l'eau. Parce que, par exemple, quand on refroidit, on utilise l'eau du réseau. Et en fait, du coup, la cuve, là, elle peut servir de cuve tampon pour récupérer l'eau qui s'est chargée de la chaleur en fait du mou et qui va nous servir après pour nettoyer. La fabrication de bière a quand même des impacts écologiques, donc c'est voir comment les prendre en compte.
Mais du coup, vous brassez en grande quantité l'hiver pour derrière avoir la réserve pour l'été.
Voilà, l'idée c'est plutôt ça. Et là, du coup, là pour l'instant, niveau stock, on est quand même on n'est pas trop mal, donc au lieu de lancer des trucs maintenant alors que ça va être Noël, vaut mieux décaler au début d'année, ce qui permet aussi d'avoir de boire les bières qui sont actuellement bien et d'en refaire après, d'avoir du coup toujours des bières qui sont quand même assez...
Est-ce que ça se conserve combien de temps aussi une bière, en fût ou en bouteille?
Ça se conserve longtemps quand même. Après, ça va dépendre des conditions de conservation, comme pour le vin. Plus t'auras une pièce avec des températures qui bougent pas trop et qui sont pas élevées, mieux ce sera. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir une pièce qui est quand même située sur du nord-est, du nord-ouest. Bon, en tout cas, on est sur une pièce qui reste vachement à l'ombre. Donc même l'été, on arrive à avoir des températures qui sont pas trop importantes ici ou dans le cellier. Et après, t'as des types de bières qui sont plus intéressants aussi à faire vieillir que d'autres. La Stout, la Sempeur, j'attends 6 mois entre le moment où elle passe en fût ou en bouteille et le moment où on commence à la vendre. Là où tout ce qui est sur de la bière aromatique, type IPA, type bière aux fruits, enfin, on va plutôt être sur des choses où on privilégie des bières qu'on boit rapidement. En tout cas, si on veut avoir le goût du démarrage, ça ne veut pas dire que ce sera forcément mauvais après, mais ça peut perdre certains goûts ou et se transformer.
Alors du coup, la fermentation, procédé dans lequel les levures vont manger le sucre du malt, récupérer du malt pour pouvoir transformer ça en alcool plus CO2. Le CO2, lui, va s'échapper par les barboteurs que j'avais cités précédemment. Par contre, du coup, on aura un liquide qui va devenir alcoolisé à l'intérieur. Plat, mais alcoolisé. Les bières de Garance fermentent pendant à peu près un mois à peu près.
Ouais, j'ai quand même des fermentations qui sont plus lentes qu'on en discute avec les collègues. Pourtant, du coup, les températures, il y a un contrôle par le groupe froid au niveau des températures, mais c'est vrai que ça travaille doucement.
Les levures ont leur caractère, elles prennent leur temps, mais voilà, c'est aussi
les
ce qui fait peut-être.
Les levures ont pris mon caractère, je ne sais pas. Elles prennent leur temps, en tout cas. C'est des cuves de 620 litres, 620, 625. Mais du coup, la quantité en fait, de volume de mou, on est plutôt sur autour des 500 litres. Et en volume final, on va dire que ça va se situer entre 400 litres sur les plus petits brassins qu'on a sortis et 520 litres, peut-être les plus gros, quoi.
Donc il n'y a pas d'étape de filtration à ce moment-là. Et les levures restent présentes. Il y en a qui vont être emportées avec ce liquide de bière. Donc on aura toujours, et d'ailleurs c'est le cas de toutes les microbrasseries qu'on pourra regarder sur les bouteilles, ça fait des bières non pasteurisées, donc évolutives aussi dans le temps.
Qui ont forcément une seconde fermentation en bouteille.
Exactement. Donc cette seconde fermentation, on va leur donner on va leur redonner à manger en fait à ces levures. Donc ce liquide clarifié va passer dans la cuve de resucrage. Resucrage dans lequel Garance vient rajouter du sucre.
C'est du sucre roux non raffiné. Du coup, je fais chauffer de l'eau avant pour du coup stériliser l'eau. Je mets le sucre dans cette eau, donc ce qui va permettre d'avoir un sirop de sucre en fait qu'on va ajouter directement au niveau du mou, en cherchant à éventuellement à faire recirculer un tout petit peu le mou pour que ce soit le plus homogène possible. Après, c'est vrai que c'est l'étape qui devient périlleuse à partir de là, puisqu'il faut éviter qu'il y ait trop de contact avec l'oxygène pour garder toutes les propriétés de la bière. Et en même temps, nous, effectivement, le choix qu'on a fait est sur un processus de resucrage. Il y a d'autres processus qui peuvent exister pour remettre du CO2 dans une bouteille ou dans des fûts. Nous, on est parti sur ça et on est parti sur le fait d'avoir le même procédé pour les fûts et pour la bière, et pour les bouteilles. Donc même s'il y aura une petite évolution de goût qui sera différente parce que la taille de contenant va jouer, mais le fait d'être sur un process similaire, normalement, ça permet de garder un peu plus une unité, quoi.
Et une fois qu'elles auront reçu le sucre, dans la foulée, ça va être amené par des tuyaux, une pompe directement, on alimente dans les fûts qu'on aura ouverts. Nous, c'est vraiment, on ouvre les fûts et on alimente dedans directement, quoi. C'est très, très basique là-dessus. Donc, il y a à peu près une dizaine de fûts par brassin et en bouteille.
À peu près 600 bouteilles, donc à peu près 200 litres en bouteille et le reste en fûts. Ouais.
Il existe plusieurs types de microbrasseries. Il peut y avoir des microbrasseries qui produisent de la bière juste pour être sur de la revente. Sur des points de distribution. Il y en a d'autres où ils vont faire de la bière pour les revendre sur des marchés. Nous, l'idée, c'est de faire de la bière pour la revendre le maximum sur place.
C'est vraiment la notion du brewpub, en fait, qui n'a pas forcément de synonyme en français, qui a une écriture québécoise, par contre. mais où vraiment, tout brou, c'est brassé, et vraiment, c'est la notion du pub sur lequel la bière est brassée sur place. Il faut compter à peu près une journée pour le brassage, 4 semaines pour la fermentation, une demi-journée de nettoyage, donc toute la préparation en fait du cycle de nettoyage au niveau des fûts qu'on fait à la main, une journée d'embouteillage en fûtage, et après, généralement, on réattend encore 3 à 4 semaines avant de mettre en circulation.
Donc là, c'est la partie auberge. Donc on a une grande terrasse avec une belle vue sur la vallée. C'est une terrasse avec en pierre, des tables, une pergola, un espace un peu plus bas avec coin d'herbe, un coin chill. L'été, on y sort des jeux d'extérieur parce que l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à venir ici y consommer sur place. De passer des moments en famille, en fait.
En famille, entre amis, de pouvoir se rencontrer.
Et les jeux, on a par exemple un jeu de palais qu'on laisse aussi en extérieur. C'est vraiment pour inciter les gens à se rencontrer plus facilement, quoi. C'est une auberge parce que déjà, on peut venir manger, boire et aussi se loger. Nous avons des chambres d'hôtes, 3 chambres d'hôtes et un gîte. Donc quand on rentre sur la partie bar, du coup, enfin la porte amène directement face au comptoir, on a la vision de la tireuse, des prix affichés sur une ardoise qui sert de porte-verre au-dessus du comptoir. L'idée, c'est que ça reste un lieu familial. On y vient pour boire de la bière, mais on n'est pas obligé de boire que de la bière. On ne proposera pas de Ricard parce qu'on ne veut pas proposer de Ricard, mais on propose du vin, on propose des sirops, des sodas locaux, hein, les sodas de la microbrasserie Dolt, et aussi du thé, voilà, du thé, des infusions. Et on a sur notre partie la cave à bière, parce que l'idée, c'est aussi de rentrer sur une culture bière, de montrer que voilà, il y a nos bières, mais il y a aussi plein de choses qui existent dans le coin. Hein. Une salle dans laquelle on peut se poser, donc c'est une salle d'à peu près 20 mètres carrés, je dirais, avec 2 canapés, des tables rondes, carrées, qui font un côté taverne, des tableaux dont le but est d'alimenter le côté pop culture. Donc on a un poster de Dark Vador, Blanche-Neige avec une moustache, mais aussi d'autres trucs plus artistiques, voire même du manga, hein, un poster de Promised Neverland. On peut venir certes dans cette auberge pour venir jouer à des jeux de société, ce qui est le cas dans la deuxième salle dans laquelle je vous emmène. Voilà, donc des jeux de société type Seven Wonders, Wingspan, mais aussi des insolites, des Looney Quest, du Dixit, du Subterra. Des soirées-jeux pour essentiellement des fois proposer une cheminée pour se poser au coin d'un feu. Et voilà, pareil, une ambiance cosy, un coin enfant avec des Lego, des petites voitures, des petits bouquins, un coin plus adolescent avec des bouquins plus ados. Et la possibilité de jouer ensuite dans ce coin-là. C'est mélanger un peu l'ancien et le nouveau.
C'est tout un monde sur Radio Bartas, 107 FM.
Alors, du coup, moi, c'est Jérémy. Donc, mon rôle sur l'auberge, c'est tout ce qui est l'accueil.
Du coup, pour moi, Jérémy, c'est vraiment, c'est la personne qui va accueillir. C'est lui qui est dans le travail de lumière et d'accueil et de service, en fait. C'est le premier mot que vous entendrez quasiment en arrivant ici, ça va être le bienvenu de Jérémy. Les visites de la brasserie, ce sera Jérémy. Effectivement, tout ce qui va être commande, service, bière, vente à emporter de nos bières, des bières des collègues, du vin, accueil dans les chambres d'hôtes. Enfin, toute cette partie-là d'interface, ça va généralement, c'est lui qui est en maîtrise de ça, et voilà, même si on peut s'aider chacun sur nos parties, c'est ça. Moi, du coup, je suis un ours, et je suis très bien à être à travailler mes recettes de bière, mes recettes de cuisine, faire mes fabrications, mes productions, et de temps en temps à sortir le nez de la cuisine, et selon les fois, à discuter avec les gens ou pas. Mais je peux me camoufler un peu dans la cuisine. J'ai besoin aussi d'être coupée pour pouvoir du coup être dans de la création-fabrication. ça m'aide vraiment d'être sur un côté très bulle, quoi. Donc le fait de faire de la cuisine vraiment fait maison, bah, c'est vrai que ça prend du temps à faire. Et du coup, bah, ça me permet de répondre aussi aux prestations sur mesure. Enfin, du coup, tout ce qui va être demande de prestations sur mesure, études de possibilités, propositions de tarifaires, souvent, ça, par contre, ça va passer par moi. Du coup, moi, je vais pouvoir me charger vraiment de tout ce qui est organisation, logistique en amont, préparation sur le moment. Et hop, après, c'est Jérémy qui... auquel je passe le bébé, quoi, en mode tac.
Garance, c'est l'image du lieu. Hein. Faut savoir que c'est la plupart des, enfin toutes les chambres ont été conceptionnées par Garance à l'image de la tête de Garance.
Ça fait peur.
Non, mais c'est ça aussi qui
non,
apporte
ça
cette.
Ne représente pas
c'est,
ma tête.
C'est ça qui apporte complètement cette nouveauté sur ce lieu et ce côté très underground de l'espace, quoi. C'est les bières, en fait. C'est des éphémères totalement. Voilà, qui sortent de son imagination. Elle va aller se lancer dans de la créativité sur du rhum arrangé, qui est d'ailleurs très très bon. On a un cocktail à base de vin de sureau. Bon, ben voilà, c'est toutes ces petites choses qui viennent agrémenter, qui sont faites sur place et qui sont faites par Garance.
Mais du coup, Hortense est tout jeune en Lozère. Vous avez ouvert en 2022. Et quand vous avez ouvert, vous saviez déjà vers quoi vous allez et quel public vous allez avoir?
Oui, on savait dès le départ, en fait, qu'on voulait faire... on était parti sur un modèle où on voulait faire un brewpub. Donc, on voulait brasser et vendre sur place. On voulait vraiment cette dimension humaine, en fait, de que les gens puissent se retrouver, se rencontrer dans un lieu qui soit chaleureux, où ils se sentent vraiment comme à la maison, ce qui est des trucs qui ressortent plutôt par les clients. Donc, je pense qu'on peut estimer que cet aspect-là, il est bien validé. On voulait que ce soit des bons produits. On voulait que ça puisse répondre à des envies et à des enjeux, voilà, de soutenir en fait du commerce local et de soutenir un futur plus possible, en tout cas, à travers cette démarche-là. On savait très bien qu'au niveau du public qui allait être sensible à ça, le public famille pouvait y être sensible parce que c'était une proposition qui est pas souvent le cas de pouvoir venir avec des enfants et qu'on leur demande pas de rester sages comme des images et que c'est une offre qui pouvait leur plaire. On savait que ça pouvait plaire du coup aux gens qui allaient être amateurs effectivement et amatrices de produits locaux, de saveurs. Enfin voilà, on se retrouve à avoir des très bons retours de gens qui sont des fois dans la restauration parce qu'en même temps du coup ils apprécient aussi finalement le travail que c'est, quoi.
Comment est née la brasserie de... Parce que vous venez pas de Lozère, vous êtes arrivé assez récemment. Pourquoi déjà aussi avoir choisi la Lozère?
Alors du coup, nous, on ne cherchait pas particulièrement en Lozère. Désolé. Nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir monter une microbrasserie, de vendre le produit sur place à la tireuse et de faire vivre un lieu autour de ça. Créer une dynamique de village. Parce que l'idée, c'était d'aller de partir dans un milieu rural pour faire ce genre de choses. Quand nous sommes tombés lors de notre recherche de fonds de commerce, ici, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. On a un lieu pour poser la microbrasserie, on a une super terrasse et un espace pour pouvoir vendre sur place et dans lequel les gens peuvent se poser et profiter d'un cadre qui est merveilleux. Et bon, effectivement, il y a l'aspect chambre d'hôte auquel on n'avait pas initialement prévu, mais on s'y plaît et c'est un ajout qui est plutôt positif de ramener au final du tourisme qui vient se mélanger à tout ça. Ça crée un mix en fait de population qui est vraiment génial.
C'est pas un coin de Lozère qu'on connaissait ni l'un ni l'autre. Les coins qu'on connaissait de Lozère, moi c'était plutôt le côté Sévenol-Gorge. Toi c'était plutôt le côté Pont de Montvert-Marguerite. Mais c'est vrai que la vallée du Lot, enfin on la connaissait pas du tout. Et en vrai le fait d'être juste à côté, de l'autoroute et que ce soit très accessible. C'est vrai que c'est quand même un gros plus par rapport à certains endroits très beaux où moi j'ai habité dans les Cévennes, mais qui sont quand même plus compliqués d'accès, quoi.
Et comment s'est passée du coup l'intégration dans ce village? Est-ce que vous avez été bien accueillis par les locaux?
Accueillis sur le territoire, on a été très bien accueillis par une asso qui s'appelle la Faute à Voltaire et qui avait pour envie de faire vivre ce lieu. Et le cadre permettait pleinement, en tout cas, eux aussi, de pouvoir s'exprimer sur un lieu. Monter des événements, c'est parfois beaucoup, assez énergivore. Et avoir un lieu dans lequel on peut réaliser ses actions et derrière y emmener son public, eh bien, c'était plus simple pour eux et aussi ça nous a permis, nous carrément, de nous faire découvrir un peu sur les territoires. La faute à Voltaire, voilà, on a l'écrivain Bernard Grandjean, auquel on propose ses livres au bar, voilà, Guy Lévesque
et Pascaline Grandjean, Mireille,
voilà, qui sont venus faire des soirées contes, soirées polars,
soirées poésie.
Donc ça a beaucoup joué en tout cas sur l'accueil qu'on a eu sur le territoire.
Et vraiment, enfin voilà, on s'est retrouvé avec certaines personnes du territoire sur une appétence culturelle ou en tout cas une sensibilité autour de ça qui était chouette. On a du coup Pierre Igrier qui a pu nous faire une première partie d'un concert d'une amie où ça, voilà, ça s'est juste fait sur une rencontre entre eux. Il était hyper fier et c'était hyper chouette pour nous que ça se passe comme ça aussi. Cette appétence-là autour de la culture qui a fait aussi du coup qu'on a rencontré Scène Croisée pour pouvoir voir comment ça se tissait dans ce maillage de réseau culturel qui est avec Scène Croisée. Enfin, ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez positif, quoi.
Je suis allé voir il n'y a pas longtemps les brasseurs de la Jonde qui, eux, se sont intégrés dans le territoire à une époque où il n'y avait quasiment aucune brasserie. Vous êtes arrivés il n'y a vraiment pas longtemps alors qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal de brasseries sur le territoire de la Lozère. Est-ce que c'est pas un risque? Comment fonctionne la collaboration entre les brasseries en Lozère?
Alors, on a une bonne entente envers les autres microbrasseries. Hein. Nous, d'ailleurs, on propose certaines de leurs bières ici dans notre partie cave à bière. Et on les voit de temps en temps passer, venir nous voir pour consommer à la tireuse. Après, en termes de sur l'implantation sur le territoire, nous, c'est vrai que vous faites quelques kilomètres, vous avez forcément une autre microbrasserie à côté. Nous, à côté de chez nous, vraiment pas loin, on a celle du col du Trébattu, on a la brasserie de Chanac, la Bestia. Après, on est sur des dynamiques totalement différentes. Voilà, il y en a qui y brassent. Celle de la Bestia va brasser pour être sur des points de distribution. On a la clandestine qui va être plus sur le côté marché et un peu de restauration. Et c'est vrai que nous, on est vraiment sur le concept où les gens viennent boire sur place. Donc, en fait, on se croise peu même sur nos activités. Donc, au final, ça marche plutôt bien.
Il y a très peu de concurrence pour vous.
On n'est pas sur la même activité. Donc, à partir de là, on n'a pas la même concurrence, quoi.
Effectivement. À l'heure actuelle, en fait, pour moi, enfin sur le milieu brassicole, en tout cas sur ceux qui y arrivent quand même sur un métier qui est passionnant et de gens qui sont passionnés, je ressens pas de concurrence avec mes collègues, en fait, enfin que ce soit les collègues que j'avais du côté brassin toulousain ou par là, en fait. Enfin, parce que ça va être des points de vue qui vont être complémentaires ou différents, mais de toute manière, il y a plein de vignobles qui existent et on se pose pas la question parce qu'il y a des vignobles les uns à côté des autres si finalement ils viennent se tirer dans les pattes. Au contraire, c'est ça qui va permettre de pouvoir justement se dire tiens, je vais faire des vacances ou je vais visiter des caves à vin, et de la même manière à l'heure actuelle. Le fait qu'il y ait de plus en plus de brasseries, ça permet aussi de faire des vacances où on peut du coup profiter de visiter des caves à bière. Et je pense que ça permet juste de se rendre compte que, entre la tomate de supermarché et la tomate de jardin, il y a un monde. Entre les bières industrielles qui sont obligées, en fait, pour garder leur goût tout le temps le même de pasteuriser, et une bière qui est vivante et évolutive dans le goût, c'est deux mondes différents et qui sont chouettes, quoi.
Tu as commencé à brasser il y a une dizaine d'années, tes tout premiers brassins, tes toutes premières expérimentations. Comment t'as plongé là-dedans ?
Juste en revenant d'un contrat en tant qu'éduc et en discutant avec des collègues qui m'ont parlé d'une asso de brasseurs sur Toulouse qui s'appelle les Forces du Malte et que je salue au passage. Et en fait, voilà, du coup, ça a été hyper facilitant. Moi, j'avais toujours eu envie de faire de la bière ou faire du vin. C'était des choses qui m'intéressaient. J'avais juste pu faire des apéritifs, donc retravailler... du vin pour pouvoir faire du vin noir, du vin de mur, des choses comme ça. Mais là, le fait d'avoir cet assaut, bah, ça a été beaucoup plus simple dans l'accès au matériel, dans l'émulation aussi collective de pouvoir goûter les produits des autres, en faire et j'ai trouvé ça très très chouette quoi.
Tu as été bien accueillie en tant que femme dans le milieu brassicole, parce que c'est pas non plus quelque chose d'hyper ban, je sais pas en fait, j'ai pas croisé énormément encore de brasseurs.
Il y a plus de brasseurs que de brasseuses, après il y a quand même pas mal de brasseuses en tout cas en France. J'avais été étonnée de ça il y a quelques années justement quand j'avais été à Montréal, qui est quand même une terre où culturellement il y a quand même une image assez présente des femmes et où dans le milieu brassicole elles étaient pas tant que ça présentes. Pour le coup c'est pas du tout le voilà, il y a quand même des brasseuses au niveau de la France. Historiquement, de toute manière, la bière a été aussi brassée par des femmes. Et après, moi, au niveau de l'accueil, en tout cas avec les collègues brasseurs, j'ai pas eu de soucis du tout là-dessus.
Des petites anecdotes sur tes premières bières, des petits trucs marrants qui auraient pu arriver sur tes...
Mais c'est vrai qu'une des premières sours que j'ai fait, donc où il y a du coup... deux fermentations, dont une qui est vraiment avec les lactobacillus, donc avec tout ce qui est en fait les bactéries acides plutôt produits laitiers. Et en fait, vraiment, elle était dégueulasse. Mais vraiment, c'est un pote qui l'a surnommée la trash kraut et elle avait un côté, mais... choucroute fermentée. C'est vrai que celle-là, ça n'a vraiment pas été le plus gros succès de celle que j'ai fait. Après, en soi, ça s'est quand même plutôt toujours bien passé. C'est juste qu'au démarrage, on habitait dans un petit T1 bis avec Jérém et que je passais mon temps à bouger les fermenteurs de la machine à laver à la kitchenette. C'était un peu un sketch là-dessus. Et t'entendais sans arrêt les plop, 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 du coup, des fermenteurs qui étaient en train de travailler. Voilà, on était bercés au CO2 et au bruit de la bière, quoi.
Quand vous voyez, du coup, l'impact environnemental d'une brasserie comme la vôtre, est-ce qu'il y aurait des points d'amélioration ?
Non, pour moi, du coup, on est quand même vraiment déjà pas mal au niveau process. C'est-à-dire que du coup, le fait, effectivement, de fabriquer la bière, ça va être gourmand en eau. Donc le fait là de pouvoir du coup essayer au maximum d'utiliser des cuves tampons pour se servir de l'eau pour du nettoyage, je pense que c'est qu'on temporise vraiment au maximum là-dessus. Au niveau des cycles de nettoyage, avant de réintroduire dans le réseau, on reneutralise en fait au niveau des pH, ce qui permet de limiter un petit peu là-dessus. La soude par exemple qui sert pour nettoyer tout ce qui est organique peut être utilisée en fait sur plusieurs nettoyages, même si elle se colore, elle a encore des principes actifs qui sont bons. Les dresges, du coup, donc les déchets de céréales, le fait que ce soit incorporé au niveau potager, ça vient enrichir au niveau de la terre en étant emmené à brouette de Jérémy. Merci à lui.
Aucun enjeu agricole.
Aucun enjeu agricole, du travail à la main. Le fait du coup d'être sur des choix de recettes qui sont quand même sur des petites quantités de houblon, de plantes, et pour une partie qui sont de l'autoproduction, du glanage, du troc, je pense que c'est quand même assez réfléchi sur ces aspects-là, quoi. Donc c'est pour ça que là, du coup, on a pu faire une bière éphémère avec le sureau, parce qu'on a du sureau qui pousse sur le terrain. Il y a une bière éphémère qu'on a testée avec du houblon qui pousse au niveau de la rivière, qu'on a ramassé parce qu'il pousse sur place. Il y a une bière avec des quetschs, donc qui est une variété de prunes qui pousse en fait là
juste à côté de l'auberge.
Et du coup, on en a fait des très très bonnes tartes avec, mais effectivement il en restait quand même beaucoup et on a ramassé avec les copains et les enfants des copains et à transformation en purée de fruits pour pouvoir du coup tester dans la bière. Du coup c'est quand même vraiment, et le fait d'être sûr de la vente qui est finalement sur de la distribution majoritairement sur place, et ce qui n'est pas sur place, du coup, c'est la pizzeria Épapé à la Canourgue, le RAGT de Marvejol et le RAGT de Saint-Chély-d'Apché, artisans et paysans, du coup, à la Canourgue aussi. Je pense qu'on minimise aussi l'impact possible livraison.
Vous avez donc une gamme de 6 bières, la Gardez le rythme, reviens-y, transition jusqu'au bout, bûcheronne, sans peur. Est-ce que tu peux les présenter, qui elles sont, comment elles sont arrivées, d'où elles viennent ?
La toute première, en fait, de ces 6-là, c'est la jusqu'au bout. J'ai dû faire à peu près 70-80 brassins, je pense, en tant qu'amatrice. Et à mon deuxième ou troisième brassin, il y avait un concours avec les forces du Malte. Et le seul sur lequel je pouvais rentrer en catégorie, c'était une bière blanche. Je n'aimais pas la bière blanche. Mais du coup, j'ai trouvé finalement que ça pouvait être intéressant. Et du coup, ça m'a donné envie d'en refaire. Et j'avais ce plan de verveine à la maison dont je n'arrivais pas à utiliser l'ensemble des feuilles en tisane. Du coup, je me suis dit, faire une bière blanche et utiliser cette plante-là, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et le côté jusqu'au bout, c'est le premier des noms qui est arrivé, parce qu'effectivement, j'ai un côté jusqu'au boutiste. Et le fait, finalement, de faire cette bière avec des plantes que je ramassais moi, et c'est arrivé du coup quelques années après, au fait de me retrouver à ramasser des kilos de verveine en les troquant chez des clients pour les faire sécher sur des tankardvilles à la maison, quoi. La deuxième qui est sortie, c'était la Reviens-y, celle à la poire bergamote, où j'ai fait plusieurs tests avant effectivement de partir sur ce thé à la bergamote et cette infusion à poire pêche feuille de mûrier. Et du coup, celle-là, c'était vraiment le côté, moi j'ai aimé le vin avant d'aimer la bière. Et j'avais envie en fait d'une bière qui puisse aussi avoir un nez, qui puisse avoir des notes florales. En fait, je trouve que le monde, on a plus l'habitude de sentir, de goûter, de chercher des mariages avec du vin, et la même chose est faisable avec la bière. Et voilà, j'avais envie d'aller explorer aussi ce côté-là. Côté reviens-y, c'est parce que souvent les gens, ça leur fait un peu peur au départ, la notion poire bergamote. Ils ont peur que ce soit très sucré, que ce soit de l'ajout de sirop, de l'ajout de jus de fruits. Et puis finalement, nombre de fois, c'est la dernière qu'ils boivent, et puis finalement, c'est celle avec laquelle ils repartent avec un pack, parce qu'eux, ils vont l'avoir apprécié, quoi. La garder le rythme, c'est la troisième dans les différentes recettes que j'ai pu faire qui est sortie. Je voulais une bière qui puisse être bue en dansant tout au long de la soirée. Enfin, voilà, ce côté où le goût de la bière puisse faire qu'il était agréable à boire, mais qu'on avait envie, effectivement, de pouvoir en reboire derrière, que ça vienne pas non plus complètement charger le palais, de quelque chose où t'as bu un galopin et t'es atomisé, et t'en veux plus, quoi. Il y a le lever de coude avec, quoi. Mais voilà, elle est très bien. C'est la bière de soif, mais c'est une bonne bière de soif. La transition, elle, du coup, c'était en cherchant dans les plantes aromatiques et en me rendant compte que le romarin a une grosse quantité, beaucoup plus simple à ramasser quand même que la verveine, avec des propriétés antiseptiques communes au houblon, avec des propriétés aromatiques communes au houblon, et avec beaucoup de gens qui ont du romarin parce que on a l'habitude d'avoir du romarin et personne s'en sert en fait du romarin. Et du coup le clin d'œil à la notion de transition, c'est le clin d'œil à la notion de transition écologique, tout le côté effectivement de réflexion sur où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, quoi. Et la sans-peur, du coup, c'est la Stout. Moi, à la base, c'est mes bières préférées, en fait. Enfin, j'aime ces bières brunes, super épaisses, avec lesquelles tu manges avec. Enfin, voilà. Là, du coup, je l'ai fait quand même un peu plus légère. Et j'avais envie de l'appeler sans-peur parce qu'effectivement, les gens, ils ont toujours peur de ce type de bière. Ils veulent pas y aller. Et puis, voilà, j'aimais bien le côté sans-peur et sans-reproche, mais ça faisait un peu trop long. Donc, j'ai gardé que le début. Et la bûcheronne, elle est née ici, et le côté clin d'œil bûcheronne, dans ce lieu où il y a quand même beaucoup de bois dans ce bassin lausérien, aveyronnais, cévenol, j'avais pas envie de l'appeler bûcheron, j'avais envie de revendiquer quelque part aussi ce côté, le fait d'être moi une femme brasseuse, du coup ça me plaisait bien de l'appeler bûcheronne. J'ai mis très très longtemps à trouver un nom à cette bière. La recette était faite avant, mais elle a porté d'autres noms avant d'être en Lozère. La Lozère m'a permis de lui trouver le nom qui me plaisait.
Tout un monde sur Radio Bartas, 107 FM.
Là, ce qu'on vous présente, c'est une bière, une éphémère, donc il y a un fût de temps en temps qui passe en éphémère, un fût unique dans lequel il y a les expériences garanciennes. Celle-ci est une
Une bière ambrée, du coup, avec des fleurs de sureau qu'on a ramassées, du coup, fin en juin, quand c'était la période de la floraison. Du coup, on est sur une bière qui est vraiment, enfin là, pour le coup, la côté couleur or, il y est vraiment. On est plutôt sur quelque chose de quand même très limpide pour une ambrée. Il y a vraiment une belle lumière de la petite bulle. Enfin, moi, j'adore, du coup, sur cette bière-là, quand tu la regardes par en dessous, tu vois vraiment le tapis de bulles. Enfin, c'est trop beau. Je sais pas, je trouve ça classe, la bière. Le nez, du coup, t'as quelque chose, enfin, sans, prends le temps en même temps, mais t'as ce côté floral, du coup, du sureau qui est là, mais qui reste quand même dans le côté agréable, avec un deuxième nez où il y a un peu plus de levure, quand même, qui ressort. Et du coup, en goût, enfin, t'as le sureau, enfin, pour moi, qui est là, mais qui reste quand même discret sur le palais, mais que tu sens quand même, quoi. Enfin, après, je suis malade aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un peu... c'est pas le meilleur moment gustativement parlant. Mais voilà, en tout cas, enfin, c'est une bière qui est très chouette, qui est bien équilibrée quand même. Il y a du houblon néanmoins dedans, mais effectivement, enfin, c'est... quand c'est comme ça, je préfère choisir des quantités et du houblon qui va quand même être assez léger pour permettre en fait à la plante de s'exprimer et sans que ça ramène trop d'amertume non plus quoi.
Et toi, qu'est-ce que ça te fait ?
Alors moi du coup à l'odeur effectivement j'ai le côté sureau qui ressort, mais aussi ce qu'on peut retrouver dans une ambrée, un côté un peu gourmand, sucré. Il y a aussi l'aspect houblonné par cette arrière odeur agrume qui ressort.
Ah, tu ça. Trouves qu'il y a un côté odeur
agrume? Ouais, il y a une petite odeur agrume. La mousse, ça va. C'est quand même sur une bonne taille de mousse.
Ouais, c'est une belle mousse sur celle-là.
Très très belle mousse. Au goût, il y a cette petite chantilly au démarrage de la mousse qu'on ressent. Puis on arrive sur cet aspect complètement floral du sureau. Mais c'est pas agressif, c'est vraiment... T'as un petit truc sureau là qui te passe dans la bouche, dans le palais, et effectivement une légère amertume de bière, très légère, apportée par ce houblon. Et forcément, on a quand même, moi j'ai plus tendance à dire qu'il y a ce côté ambré d'une bière qui ressort plus prioritairement. Voilà, nez sureau et vraiment en bouche ambré.
En tout cas, je pense que quand tu dis effectivement que c'est doux ou le côté soft, bah, c'est un peu cette notion d'équilibre en fait. C'est-à-dire que si effectivement t'as juste l'impression de brouter du sureau, oui, ça va être un peu le cas de figure où t'en bois un galopin et après t'as la bouche qui va être trop saturée en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui n'est pas évident, c'est de réussir à trouver le goût de quelque chose sans que ça... Enfin, que ça laisse quand même de la place, en fait, aussi au fait que t'es là, tu passes un moment, tu discutes, tu fais aussi autre chose, et puis t'as envie de manger un petit truc avec. Enfin, voilà, il faut du coup que ça puisse trouver un équilibre et accompagner aussi l'ensemble du moment qui va se vivre, en fait.
Dans très peu de temps, vous allez entrer dans un monde de passionnés. Certains pourraient les appeler les nouveaux druides. Ils transforment l'eau, le malt et la levure en un subtil breuvage que l'on nomme communément bière. L'abus d'alcool étant un danger pour la santé, cette émission n'est pas là pour vous inciter à en abuser, mais pour mettre en avant les acteurs locaux qui inventent avec amour de nouvelles recettes et travaillent sans relâche pour vous partager leur passion gustative à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un département.
Tout un monde, c'est un vendredi sur deux à 17h et un dimanche sur deux à 11h sur Radio Bartas 107 FM. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.